Saint Léon le Grand, qui est vraiment un très, très grand pape, mort le 10 novembre de l'an 461. On peut dire que il y a des hommes qui, au cours de l'histoire, ont reçu de très, très grandes responsabilités, en voilà un. Vous avez dû voir dans des films, vous avez lu quelque part, j'en suis sûr, vous avez appris à l'école qu'il y avait eu des gens qui étaient descendus du nord, qu'on appelait les barbares, le nord de l'Europe, et qui avaient envahi l'Italie à un certain moment, et on retient un nom, Attila. Mais c'est lui qui a arrêté Attila. Alors, c'était un moment de grande violence, un moment de catastrophe. Et on peut dire que ces hommes-là savent, au milieu des troubles, garder la foi, puis ils continuent toujours leur mission en dépit des problèmes épouvantables. Et ce qui est extraordinaire chez eux, souvent, c'est qu'ils savent conserver leur sérénité. C'est ça qui est merveilleux aussi. Et leur paix intérieure. Ils continuent, ils continuent. Il a été pape pendant 21 ans dans des moments extrêmement troublés. Ce pape Léon Ier, le Grand, Saint Léon, c'est l'un de ces pilotes que Dieu a donné, que le Christ a donné à sa barque, qui est l'Église. Et on symbolise souvent l'Église comme étant une barque, avec comme pilote le pape, entouré de ses apôtres, de ses évêques. C'est en restant ferme qui sont des pilotes remarquables, les grands papes. Et lui, bien, il est à la barre de ce grand navire qu'est l'Église, au milieu de la tempête. Et son long pontificat, de 440 à 461, 21 ans, comme je vous ai dit, est marqué par des sortes d'événements, de l'effondrement de l'Empire romain. En Occident, il y avait des empereurs à Rome, comme vous savez tous, et ça s'effondre alors qu'il est là. Et c'est lui qui va devenir, pour ainsi dire, non pas l'empereur, mais c'est le responsable même des choses temporelles. Il y a le déferlement des barbares, dont je viens de vous dire un peu un mot, c'est-à-dire les Huns, H-U-N-S, là, d'Attila, qui envahissent l'Italie. Il y a les Vandales, qui viennent piller Rome. Ils ne tueront personne grâce à Saint Léon, qui va les convaincre de ne massacrer personne. Il y a aussi la famine qui ravage des régions entières. Alors, c'est absolument épouvantable ce qui se passe à son époque. C'est pire que tout. Et au même moment, sur le plan de la pensée spirituelle, ben, il y a une crise doctrinale violente qui secoue l'Église. Et de quoi s'agit-il au juste? Eh bien, ce sont des théologiens qui affirment que la nature humaine du Christ a été comme absorbée par sa nature divine. Ces théologiens-là risquent, en niant que Dieu se soit fait homme, ce qu'on va célébrer là au temps de Noël à la fin de décembre, bien, ils nient que Dieu se soit fait homme pour vrai. Puis ils risquent comme ça de compromettre l'une des bases de la foi chrétienne, c'est-à-dire ce dogme de l'incarnation, que Dieu s'est fait homme, un homme comme nous, hein. Et il y a un sermon sur la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ que j'espère vous lire à la fin de cette émission, un sermon de Saint Léon le Grand, qui est une des œuvres les plus belles de l'histoire de l'Église, disent les spécialistes. Alors, le ralliement à ces idées-là du puissant patriarche d'Alexandrie en Égypte, Dioscore, qui était un homme pas facile, risque de les faire triompher. Et Saint Léon, lui, se lance avec énergie dans la lutte là, contre cette nouvelle hérésie. Puis, il sait faire triompher sa foi lors du concile écuménique de Chalcédoine, près de Constantinople. Là, Constantinople, c'est, comme vous savez, c'est en Turquie. C'est là qu'est le siège du patriarche, comme on appelle, de Constantinople, le patriarche de toute la grande église, ou des grandes églises orthodoxes, hein, qui sont malheureusement séparés de nous en grande partie. Il y a des morceaux qui sont unis à nous, heureusement, et qui préfigurent cette union future que souhaite tant Jésus-Christ quand il dit « Soyez unis ». Et puis, lors du concile œcuménique de Chalcédoine, on proclame la foi indéfectible de l'Église au Christ vrai Dieu et vrai homme. Et c'est extrêmement important, vous verrez. Vous le savez d'ailleurs que c'est très important, vous le savez tous, j'imagine bien. Mais là, je m'adresse aux quelques auditeurs qui sont moins au courant. Et tout en défendant la doctrine, donc, que Dieu, en son Fils éternel, dans le Fils éternel, s'est incarné en Jésus-Christ, eh bien, Léon va trouver les chefs barbares pour les convaincre, comme je vous ai dit, à épargner les vies humaines à Rome. Il organise des distributions de vivres à la population de Rome, qui est affamée parce que les empereurs sont, pour ainsi dire, disparus. Le pouvoir civil est comme mort. Nous avons de Saint Léon un recueil de sermons pour les fêtes de l'année liturgique où son éloquence est simple. Il parle assez directement. Il est à la fois paisible, mais il y a une certaine dignité. Puis, il s'est montré assez fidèle à la profondeur des mystères du christianisme et surtout de l'incarnation. Et c'est superbe, hein? On connaît mal l'homme qu'il a été, on connaît mal sa psychologie, mais ce qu'on peut en saisir encore aujourd'hui, grâce à ces textes-là, c'est le courage, la force d'âme, puis la détermination qui est appuyée sur une foi sans faille. Il y a une foi, on pourrait dire parfaite, qui ne peut, après 15 siècles, susciter l'admiration, hein, d'un très grand homme que ce Saint Léon le Grand. On ne sait pas trop quand il est né, au juste, ce Saint Léon. On sait qu'il est originaire de Toscane, ça. Vous savez où est la Toscane, c'est en Italie, là, dans la région du Nord-Ouest. C'est là qu'il y a Florence, Sienne, bon. Il exerce cependant une forte influence parmi le clergé romain, même s'il vient de là. En 430, il est rendu à Rome. On peut imaginer qu'il est né vers l'an 400. Donc, il commence à avoir de l'influence à l'âge de 30 ans. Il est diacre. On ignore tout de son enfance et de sa formation. En tout cas, il appartient très jeune au clergé romain. Puis donc, il se trouve être diacre. Et dès l'an 431, on le voit jouer un rôle de premier plan dans l'église de Rome, à Rome, là. Et c'est à lui que Saint Cyrille, qui est patriarche d'Alexandrie, toujours en Égypte, grand Saint Cyrille, et qui crie pour mettre en garde l'Église romaine contre des dangers d'hérésie en Orient, dans la région de Constantinople. Il y a des hérésies possibles. Et les auteurs gaulois, ou français si vous voulez, comme Cassien, qui est très connu, ou Prosper d'Aquitaine, évoque avec beaucoup de respect ce diacre romain, qui est Saint Léon, un diacre prestigieux, qui est un fervent défenseur de l'orthodoxie catholique. Ils écrivent ça, eux, Cassien et Prosper d'Aquitaine, vers l'an 430 déjà. Il a déjà une grande réputation. À l'âge de 30 ans environ, quoi. La réputation de Léon, telle que la cour impériale est telle, n'est-ce pas, que la cour impériale lui confie en 440 une mission diplomatique délicate. Il y a encore l'empereur, il y a encore une certaine cour à ce moment-là. On n'est pas rendu à la fin de son règne de pape qui se terminera en 461. Il va être élu en 440. Mais on lui confie donc une mission diplomatique. Il n'est pas pape, hein. Il faut qu'il parte en Gaule pour réconcilier le ministre impérial qui gouverne la région, là, le préfet du prétoire, puis le général en chef. Et au cours de cette mission difficile, c'est des longs voyages, et il apprend la mort du pape. Et il apprend qu'on l'a élu pape. Il est élu pape. Alors, il va être là, pape, pendant plus de 20 ans, comme vous savez. Et il est donc élu pape à distance. C'est assez extraordinaire, hein? Et ce sont des années terribles qui s'annoncent pour lui. Depuis le début du siècle, c'est pas drôle là-bas. L'Occident est ravagé par les grandes invasions qui viennent du Nord et par des régions entières. L'Empire tombe entre les mains des envahisseurs. On a des récits épouvantables d'incendies, de villes, de tout ça, de pillages et de massacres. Tout ça, ça parvient de Gaule, d'Espagne et même d'Afrique. C'est terrible ce qui se passe. Les routes sont parcourues par des cortèges pitoyables de réfugiés qui fuient l'envahisseur germanique. Ça ressemble à la dernière guerre, ça ressemble encore à ce qui se passe ici, là, sur la Terre, toujours, toujours, on dirait ça ne finit plus. Et en 439, Carthage, c'est près de Tunis, vous connaissez la Tunisie en Afrique du Nord, hein, c'est près de Tunis, mais Carthage est tombée. Et l'Afrique est devenue la possession des Vandales, c'est de là qu'on tire le nom de vandalisme, le mot vandalisme, hein. Les Vandales, ce qui compromet gravement le ravitaillement de la ville de Rome pour les nourrir. Et traditionnellement, c'est par cette région de l'Afrique que l'on se nourrit en bonne partie. Puis un envahisseur encore plus redouté menace à son tour l'Occident. C'est qui ça? C'est les Huns, dont je vous ai parlé au début, du roi Attila, qui sont d'origine asiatique, ceux-là. Ça fait encore plus peur. L'Italie est restée préservée de ses malheurs. Ces malheurs-là sont épouvantables, mais les esprits du Cid à Rome comprennent bien que ce n'est qu'un sursis, que ils vont arriver, ils s'en viennent, et puis ils ont peur de la prise puis du pillage de Rome, hein. Comme c'est arrivé en 410 par les barbares d'Alaric, c'est arrivé en 410, donc pas tellement longtemps plus tôt, et c'est encore dans toutes les mémoires. Or, en 452, donc 42 ans plus tard seulement, on redoute le pire, car Attila, qui a été battu en Gaule, mène ses hordes de barbares asiatiques pour ravager l'Italie du Nord. Milan, Turin vont y passer, etc. Alors, la cour impériale de Rome lui envoie un ambassade qui réussit à persuader ce barbare épouvantable de passer avec son peuple au nord des Alpes, dans le nord, là, où Attila meurt heureusement peu après. Et le plus efficace des ambassadeurs, c'est qui, vous le devinez, hein? Oui, c'était Léon le Grand, le pape Léon le Grand, qui apparaît alors comme le sauveur de l'Italie. Oui, sa forte personnalité a fait merveille dans ces circonstances absolument dramatiques. Il a arrêté l'envahisseur. Or, il en est de même en 455 quand le roi des Vandales, Genséric, débarque à Ostie, près de... Ostie, c'est O-S-T-I-E, comme vous savez, près de Rome, hein, avec une flotte de guerre. Puis il occupe Rome, et là, le pape Léon le Grand est l'unique négociateur, puis il parvient à obtenir de ce roi barbare qu'il interdise à ses soldats le meurtre puis l'incendie. Alors Genséric tient parole, mais il fait systématiquement piller la ville. Puis il amène en Afrique, imaginez, des milliers de captifs. C'est terrible ce qui se passe. Et le pape Léon le Grand a le cœur brisé de voir une partie de ces gens dont il est en grande partie responsable, exilés, amenés comme esclaves. Alors, en cette même année 455, le dernier empereur d'Occident, le dernier empereur, pas de Rome, mais en fait c'est à Ravenne qu'ils sont surtout, qui s'appelle Valentinien III, est assassiné. Mais pendant une vingtaine d'années, 10 empereurs vont se succéder, et ils ne sont que des fantoches finalement entre les mains des chefs barbares qui ont envahi. Jusqu'à l'abolition pure et simple de l'Empire d'Occident en 476, c'est la fin, il n'y a plus d'empereur en Occident. Il y en a en Orient, à Constantinople. Et dans ces conditions, le pape, qui a en somme à peu près 60 ans environ, là, c'est lui le seul recours qu'a la population. Il est le protecteur de la population civile. Et cela vaut même pour la vie quotidienne, là. Il y a une terrible famine qui ravage l'Italie en ce milieu du 5e siècle. Alors, Léon décide, lui, le pape, d'organiser des secours, de faire des collectes de vivres et de les distribuer à la population de Rome affamée, comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous avons entendu aux nouvelles Fabien Leboeuf, qui dirige une organisation établie par les évêques du Canada. Et qui se charge de ramasser, on l'espère, des millions pour aider les gens du Nicaragua et du Honduras qui souffrent terriblement. C'est développement et paix. Alors, heureusement, l'Empire d'Orient, avec son empereur, ne connaît pas les mêmes malheurs que l'Empire d'Occident. L'Empire d'Orient vit plutôt des temps pacifiques. Or, l'Église y est quand même agitée, parce qu'il y a une seule Église dans ce temps-là. Hein? L'Église à Constantinople, comme l'Église à Rome, c'est une seule Église unie dans ce temps-là. Ils ne se sépareront qu'en 1056. Hein? On est loin de ça, c'est 600 ans plus tard. Or, l'Église y est quand même agitée par de graves querelles doctrinales, puis en 431, il y a un concile œcuménique qui réunit à Éphèse. Connaissez ça, Éphèse? C'est là où serait morte Marie, la Sainte Vierge, et c'est là qu'a eu lieu l'Assomption, la mère de Jésus. Donc, ils se réunissent à Éphèse, en Asie mineure, et ce concile œcuménique a condamné l'hérésie de Nestorius, ce fameux Nestorius. C'est une hérésie qui s'est répandue par un de ses fidèles dans l'islam. On retrouve cette hérésie dans le Coran, dans l'islam. De quoi s'agit-il? Bien, on minimise en la personne de Jésus-Christ la nature divine, hein, comme dans le Coran. On prétend que Jésus n'est pas Dieu. On prétend même qu'il est même pas mort sur la croix, donc qu'il n'est pas ressuscité. C'est un autre qui a été tué à sa place. Et l'hérésie a été combattu avec vigueur par le patriarche d'Alexandrie, Saint Cyril, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et dont je vous ai parlé d'ailleurs en onde le 9 février de cette année 1998, Saint Cyril d'Alexandrie. Lui, il a reçu l'appui sans réserve de l'Église de Rome. Alors le concile d'Éphèse, énorme concile, très important concile, a proclamé fermement qu'en Jésus-Christ se trouve la plénitude de la divinité du Verbe de Dieu et que la Vierge Marie peut donc être appelée légitimement Mère de Dieu. Hein? Je répète, c'est bien important, c'est à Éphèse que cette foi a été affirmée. C'est pas une fantaisie, là. C'est évidemment, vous le savez tous, j'imagine, c'est basé sur des textes et sur une tradition sûre. Hein? Ils ont proclamé qu'en Jésus-Christ se trouve la plénitude de la divinité du Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, et que la Vierge Marie, qui l'a mis au monde, à Noël, comme on sait, peut donc être appelée légitimement Mère de Dieu. Elle n'est pas une déesse. Ça ne veut pas dire ça. Elle est la Mère de Dieu, comme on dit la Mère du Président. La Mère du Président n'est pas présidente. Alors, certains, pourtant, s'inquiètent de telle ou telle formule utilisée par Saint Cyril. Est-ce qu'on va pas oublier la nature humaine du Sauveur en affirmant comme ça la divinité trop fortement de Jésus? En 438, là, à la mort de Saint Cyril, l'Église d'Alexandrie, toujours en Égypte, lui donne pour successeur Dioscore, dont je vous ai parlé un peu au début, je vous ai dit qu'il était difficile. C'est un personnage autoritaire et brutal. Or, il y a alors à Constantinople, en Turquie d'aujourd'hui, un vieux moine, vénéré pour ses vertus, qui est supérieur d'un grand couvent. Mais malheureusement, il croit si fermement à la divinité de Jésus qu'il en vient à affirmer que le Christ ne possédait pas véritablement la nature humaine. Un autre hérésie. Parce que d'après lui, la nature humaine avait été absorbée par la nature divine. Il était Dieu parmi nous, mais il n'était pas Dieu et homme à la fois. C'est ce qu'on a appelé l'hérésie monophysite. Vous avez probablement dû entendre ce mot monophysite. Je vous en ai parlé au début de l'émission, en deux mots. Le patriarche de Constantinople, Flavien, est un homme sûr. Il dirige l'Église d'Orient, lui, qui est toujours uni à l'Église de Rome, hein, c'est toujours la même Église. Il condamne ses idées en 448. Mais ces idées-là reçoivent bientôt l'appui du puissant patriarche d'Alexandrie, Dioscore, qui est un malcommode, là. À Rome, qui va défendre tout ça? La vérité, c'est le pape, Léon le Grand. Saint-Léon que l'on fête aujourd'hui. Il étudie l'affaire de très près, puis il juge totalement inadmissible une doctrine qui refuse l'humanité du Christ, qui rejette la parole de Saint-Paul, donc dans l'Épître aux Philippiens que vous connaissez par cœur, j'imagine. Écoutez bien, le Christ n'a pas revendiqué son égalité avec Dieu, mais il s'est abaissé lui-même en devenant l'image du serviteur et se faisant semblable aux hommes. Hein? Il y a tout le beau texte dans l'Épître aux Philippiens. C'est tellement beau. Je vous le lis pas au complet. L'empereur d'Orient, lui, il décide que le problème sera tranché par un concile qui va se réunir à Éphèse. Saint Léon y envoie des légats pour le représenter. Ils sont porteurs d'une lettre au patriarche de Constantinople. Et la lettre affirme, en des termes simples et précis, la foi sans faille de l'Église de Rome, l'Église catholique, dans la doctrine de l'incarnation. En somme, Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, et en lui se trouve uni, mais sans être confondu, la nature divine et la nature humaine. Et ce texte fondamental est connu sous le nom de Tome de Léon. Tome comme un tome 1, tome 2, tome 3, Tome de Léon. Arrivé à Éphèse, les envoyés du pape Saint-Léon comprennent qu'ils vont assister à une caricature de concile. C'est une blague. Dioscore préside, fameux Dioscore, malheureux, là, préside, puis, comme il est bien appuyé par l'empereur, il impose par la violence au concile l'approbation du monophysisme, là, et la déposition du patriarche de Constantinople, Flavien. Alors, il refuse qu'on lise la lettre du pape Saint-Léon, le tome de Léon. Là. Il cherche même à empêcher les légats du pape de rentrer à Rome. Il veut les garder là pour pas qu'ils aillent se plaindre. Mais l'un d'eux, il réussit par ruse. Puis là, il met le pape Saint-Léon au courant de ce brigandage d'Éphèse. Et Saint-Léon, indigné, lui, le pape, le responsable de la barque, comme il est successeur de Saint-Pierre, il casse les décisions du pseudo-concile, mais là, l'empereur d'Orient ne veut rien entendre. Arrêté et exilé, l'archevêque Flavien de Constantinople, qu'on pourrait dire être le bras droit du pape dans un certain sens, meurt des suites des mauvais traitements qu'il endurait. Le triomphe des monophysites est bref, car la mort de l'empereur en 450 les prive de leur principal appui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un nouveau concile qui est convoqué, qui se réunit à Chalcédoine, là, près de Constantinople, en 451, comme je vous ai dit au début. Et Dioscore est condamné, il est déposé, et le texte de Saint-Léon, le tome de Léon, est déclaré l'expression de la foi chrétienne orthodoxe en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. C'est un grand triomphe là pour Saint-Léon le Grand et pour l'Église de Rome. L'apôtre Pierre, dit-on, a parlé par la bouche de son successeur Saint-Léon. C'est d'ailleurs la première fois que Rome joue un tel rôle dans ses grands conciles écuméniques d'Orient, qui, depuis celui de Nicée en 325, ont défini la foi chrétienne. Pourtant, il y a des ombres, on s'en rend vite compte, oui, qui rendent ce succès moins éclatant qu'on a pu le croire. D'abord, on reprend des dispositions du concile de Constantinople tenues en 381, puis on décide à Éphèse que l'évêque de Constantinople aura hiérarchiquement le second rang, comme je vous ai dit, après celui de Rome. Mais malheureusement, Saint Léon commet une erreur, à mon avis, épouvantable, il refuse d'accepter. Quel dommage, quel dommage. Une querelle est en germe, qui doit par la suite avoir des conséquences dramatiques, comme on sait. C'était comme une espèce de mépris à l'égard de l'Église d'Orient que l'on appelle aujourd'hui l'Église orthodoxe. C'est des conséquences dramatiques, catastrophiques qui vont avoir lieu. Et surtout, les partisans du monophysisme ne désarment pas après le concile de Chalcédoine, avec parmi eux beaucoup de moines en Égypte puis aussi en Syrie, dont l'un va influencer, comme je vous ai dit, le fondateur de l'islam. Le conflit va continuer et aboutir par la suite à la constitution d'églises séparées qui subsistent de nos jours, hein, des églises sœurs qui sont séparées. Mais il y a des morceaux de ces églises-là qui sont catholiques. L'église copte d'Égypte, il y a des coptes catholiques. Hein. L'église d'Éthiopie Il y a des coptes éthiopiens catholiques. L'église arménienne, nous savons, Marie von Kenderji à Montréal est catholique, elle est arménienne. Et Jacob Zépian aussi, une quantité d'eau, sont des arméniens catholiques. Mais l'église arménienne, en général, ne l'est pas. Et l'église syrienne jacobite aussi. Oh, quelle tristesse, hein? C'était la première division de l'église chrétienne destinée à durer à travers les siècles. Puis là, la querelle sur la primauté de Constantinople en annonce, hélas, une autre, et comme on sait, comme vous le savez bien, quand il y aura la séparation en 1054. Un homme de très grande envergure qui a su combattre des hérésies, c'est-à-dire des théories qui détruisent la foi chrétienne, qui ramènent tout à presque rien, et qui nous empêche de comprendre qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Trinité, finalement? Quelle est la mission de Jésus-Christ, véritablement? Ce sont des erreurs qui peuvent nuire énormément à l'unité de l'Église aussi, et la lutte pour l'unité de l'Église, parce que c'est dans l'Évangile, hein, « Soyez unis ». Oui, « Soyez unis », dit Jésus. Il faut chercher l'union, avec respect les uns des autres, et savoir, nous, catholiques, reconnaître. Comme je l'ai reconnu tout à l'heure avec le pape Saint-Léon, malgré son importance, sa grandeur et sa sainteté, cette erreur qu'il a commise à l'égard du patriarche de Constantinople, en ne le reconnaissant pas comme ayant un pouvoir important, qui lui était relativement assujetti, puisque d'après l'Évangile, le pape est le successeur de Saint-Pierre. C'est Jésus, hein, qui dit bien à Saint-Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, Jésus, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés, ou les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié aussi dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aussi dans les cieux. » Vous savez que le tombeau de Saint-Pierre et directement sous l'autel majeur de la basilique Saint-Pierre du Vatican, où le pape célèbre solennellement l'Eucharistie. Ce chant d'action de grâce de l'Église à l'égard de Dieu notre Père, où on reçoit, dans une communion fraternelle, le corps vivant de Jésus-Christ, pour nous plonger dans le sein du Père, dans l'union de l'Esprit-Saint. C'est là que le pape célèbre. On le voit à la télévision. Mais saviez-vous qu'un siècle avant Saint Léon le Grand, personne ne niait que le pape de Rome, successeur des saints apôtres Pierre et Paul, ne soit le premier évêque de la chrétienté. Comme on dit en latin, primus inter pares, le premier évêque de la chrétienté. Il en résultait une primauté d'honneur, incontesté, puis un réel respect pour les arbitrages que pouvait être amené à rendre, évidemment, l'évêque de Rome dans différentes situations difficiles. Mais quand même, on doit avouer qu'en dehors des évêchés voisins de la ville de Rome, cette primauté n'était pas encore liée à une véritable juridiction. Il faut reconnaître ça. Ce long pontificat du pape Damase qui a précédé, qui était là entre 365 et 384, donc presque 100 ans avant Saint Léon, a permis à l'Église romaine d'affirmer son autorité. C'est pas une mauvaise autorité, hein? Vous avez vu, c'est Jésus qui la donne, cette autorité. Elle vient de Dieu. Alors donc, a permis à l'Église romaine d'affirmer son autorité de plus en plus nettement sur l'Italie d'abord, puis sur le reste de l'Occident. C'est toujours selon cette parole de Jésus, là. Je la répète. Hein. Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Hein. Or, la forte personnalité de Saint Léon le Grand va donc beaucoup mettre l'accent sur cette primauté. Afin de solidifier de l'unité, c'est pas dans un mauvais but. Cessons de croire que l'unité est mauvaise. L'unité, c'est le souhait de Jésus. C'est une unité qui doit s'établir dans l'amour. Et elle existe dans notre Église. Je vous le répète pour la 10e fois, nous sommes dans l'Église catholique, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, une 20aine d'Églises réunies dans l'unité. Il y a les Melkites, les Coptes catholiques, les Arméniens catholiques, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et tous ces gens qui rêvent de l'unité future et qui sont des préfigurations de cette grande unité qui viendra, nous l'espérons, un jour, grâce à l'Esprit-Saint. Alors, les malheurs des temps vont agir aussi dans le sens de la primauté du pape. Oui, c'est drôle, dans cet Occident envahi puis ravagé, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, alors que l'autorité impériale s'effondre, hein, la fin des empereurs de Rome, ou d'Italie, ou d'Occident, à Ravenne, mais l'Église de Rome paraît un roc solide, un recours dans l'adversité, comme vous avez vu tout à l'heure avec Saint Léon. C'est lui qui prend soin des pauvres et des malheureux. Et d'abord, dans la péninsule italienne, où Léon régit directement environ 200 évêques, bien, il en supervise le recrutement, puis il les réunit régulièrement en concile ou en synode. L'Italie du Nord a le même statut que les autres églises d'Occident. Le pape y intervient par des lettres où il définit la doctrine. Pas dans un mauvais but, cessons de penser toujours négativement vis-à-vis de l'autorité. C'est dans le but de maintenir ce qui nous est enseigné par Jésus dans les évangiles, ce qui nous est enseigné par Saint Paul, ce qui nous est enseigné par la tradition saine et solide. Il cherche, le pape, à porter remède aux abus. Il arbitre les conflits quand des évêques font appel à lui. Et Saint Léon le Grand veille, comme un père, avec soin, à la vie de toutes ses églises. En Gaule, il interdit à l'évêque Hilaire d'Arles d'exercer une primauté que ses collègues gaulois refusent. En Espagne, il engage les chrétiens à refuser fermement une hérésie, l'hérésie de Priscillien, le priscillianisme. Oh, je n'ai pas le temps de vous expliquer. En Afrique, il tente de rétablir la discipline aussi dans l'Église de la partie orientale, là, que les Vandales, dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure, n'occupent pas, mais où leur passage a causé une grande perturbation. C'est effrayant. Et pour Saint Léon le Grand, ce souci paternel qu'il a du bien de toutes les Églises, c'est un devoir lié, comme je vous l'ai dit deux fois, à l'héritage de Saint Pierre, qui, par ses successeurs les papes, les évêques de Rome, conserve le gouvernail, dit-il, de l'Église que le Christ lui a mis en main. C'est sa conception, lui. Il conserve le gouvernail de l'Église, comme dans une barque, là, que le Christ lui a mis en main. Alors, le pontificat de Saint Léon est donc une étape fondamentale de l'instauration très progressive, il est vrai, de la juridiction du pape sur l'Église d'Occident. Et aussi, un peu, sur cette Église d'Orient, qui se maintient toujours unie. Rome est alors devenue une ville presque entièrement chrétienne. Il ne reste presque plus de païens, puis Saint Léon n'a pas à y lutter, sinon contre les manichéens, qui sont partisans d'une religion dualiste d'origine iranienne. Qu'est-ce que c'est dualiste. Deux dieux, un dieu du mal, un dieu du bien. Les hérésies d'Orient, le monophysisme en particulier dont je vous ai parlé, il n'y a pas de partisans. La population chrétienne est unanime derrière le pape. On a vu son intervention auprès de Jean Séric tout à l'heure, cet envahisseur en 455, pour protéger la vie des Romains, mais Rome a été quand même saccagée. Ça montre bien qu'il est alors le personnage le plus prestigieux de Rome, le chef moral de la ville. Il n'en est pas l'administrateur, le chef politique, mais son prestige l'emporte de plus en plus sur celui des représentants de l'empereur. L'empire s'effondre, je vous le répète, et ce qui en subsiste a désormais pour capitale la nouvelle Rome, Constantinople. Ça s'est déplacé. Mais la vieille Rome, déchue, humiliée, pillée par Jean Cyrique, possède une autre gloire, celle d'être le siège du successeur de Pierre, celui que Jésus a choisi. Les apôtres, dit Saint Léon, ont élevé à Rome à une gloire telle qu'elle est devenue la tête du monde, grâce au siège sacré du bienheureux Pierre, et qu'elle domine maintenant par la religion divine plus largement qu'autrefois par la puissance terrestre. Dominer par la religion divine, ce n'est pas dominer, c'est servir. La religion est faite pour servir. Et on en a un bel exemple ces jours-ci par tout cet enthousiasme de tant de gens pour rendre service aux gens qui souffrent au Honduras et au Nicaragua. Le christianisme est au service de l'humanité et doit l'être. Toutes les fois qu'il cesse de l'être d'une façon ou d'une autre, il est en dehors de l'Évangile. Il faut ramener les cœurs à l'amour des pauvres. Que les pauvres soient riches et puissants, ou qu'ils soient pauvres, vraiment pauvres, c'est la pauvreté de l'âme, surtout, qui est terrible. Les Romains ne doivent donc pas désespérer dans cette situation. Leur cité reste la ville éternelle. Mais maintenant, c'est en un sens spirituel et religieux donc, et non plus politique et militaire, qu'elle est ville éternelle. Elle n'a pas toujours été éternelle dans le sens de l'Évangile, pauvre Rome. Oui, c'est ce qui a suscité des schismes et le protestantisme. Et nous devons regretter ces moments. Mais il y a toujours eu des saints dans l'Église, même aux moments les plus catastrophiques, qui prêchaient de l'intérieur la réforme et le retour à un Évangile vivant. L'écho des fortes paroles de Saint Léon est immense, hein? Car Saint Léon sait donner ainsi des raisons d'espérance et de fierté à des gens qui sont traumatisés par les terribles événements qu'ils vivent. Hein? C'est un homme qui sait parler. Il sait bien parler. Et les sermons de Saint Léon, sont avant tout destinés à l'instruction chrétienne d'un peuple qui est fidèle. Et les plus beaux sont prononcés lors des grandes fêtes de la liturgique, en particulier à Noël, je vais vous en lire un tout à l'heure. Et à Pâques aussi, ces textes où Saint Léon expose les grands mystères de la foi sont parmi les plus beaux que nous a laissé l'Antiquité chrétienne. Or, Saint Léon parle d'une manière à la fois simple et noble, enthousiaste et paisible. Quel pape merveilleux! Pour lui, les grands épisodes de la vie du Sauveur, de Jésus, sa naissance, sa mort sur la croix, sa résurrection, ils sont revécus chaque fois que l'Église les célèbre. On revit ça. C'est toujours aujourd'hui que le Christ naît, dit-il. C'est toujours aujourd'hui qu'il meurt. C'est toujours aujourd'hui qu'il ressuscite. Et quelles que soient les épreuves que nous subissons, mais le salut est acquis. Il est déjà présent et doit être pour tout chrétien la source d'une joie qui bannit la crainte. Cessons d'avoir de la crainte. C'est le pape Jean-Paul II, quand il a été élu, qui a dit « N'ayez pas peur. Enlevez la crainte. Réjouissez-vous. Dieu nous sauve par son amour. Il nous enveloppe. Bien entendu, c'est le mystère de Noël, l'incarnation qui inspire à Saint Léon les paroles les plus inspirées. Voici des paroles. Pas de place pour la tristesse le jour de Noël, le jour où naît la joie, le jour où naît la vie. Ce jour, les hommes doivent comprendre la dignité de leur nature, car le Fils éternel de Dieu a pris notre nature humaine. Il a pris la forme de l'esclave pour l'élever vers la nature divine. La grande lutte soutenue par Saint Léon, comme vous voyez, au Concile de Chalcédoine, pour la défense du mystère de l'incarnation, trouve dans ces sermons-là son écho. Hein. Ce sont des sermons qui sont adressés aux chrétiens de Rome, et la doctrine de Saint Léon est magnifiquement exprimée dans une prière qu'il a composée et qui est toujours récitée à la messe du jour de Noël, Jadis, on la disait à toutes les messes au moment de l'offertoire, là. Vous la connaissez, hein? Dieu qui a créé d'une manière admirable la dignité de la nature humaine et qui l'a rétablie d'une manière plus admirable encore, eh bien, donne-nous de participer à la divinité de celui qui a voulu participer à notre humanité, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Alors, la force d'âme puisée dans une force, dans une foi plutôt inébranlable, voilà ce que Saint Léon le Grand nous enseigne après 15 siècles. C'est ceux-là qui, au cours des 2000 ans, ceux qui ont eu une force d'âme puisée dans une force inébranlable et qui ont transformé l'Église et qui nous ont fait vivre et qui nous illuminent et qui nous éclairent et qui nous permettent de vivre joyeux au sein de l'Église. Eh bien, Saint Léon le Grand nous enseigne ça après 15 siècles. Son message, c'est cette foi en le Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui fut pour lui la source d'une énergie que les plus graves événements n'ont jamais pu ébranler. Pour nous, comme pour les hommes du 5e siècle, Saint Léon est un témoin de l'espérance. Après sa mort, l'Église va connaître la paix, fruit de tant de labeurs. Pendant 16 années, 21 ans, en fait, parce que les papes sont morts en 461. Saint Léon le Grand est mort en 461 après avoir gouverné l'Église, donc pendant 21 ans. Et nous n'avons malheureusement aucun détail sur ces derniers moments. C'est pas au juste. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est mort le 10 novembre. Il avait sans doute plus de 60 ans. Léon est très romain. Pour très romain. Il mesure la complexité et la susceptibilité de l'Orient chrétien. Mais il ne la comprend pas très bien. Ce grand pontife, qui prépare la papauté médiévale, n'arrive pas à jeter le pont sur l'espèce de fossé qui sépare Rome de Constantinople, dont les traditions sont différentes, les rites de célébration de la messe, les costumes, certaines choses sont différentes. Alors, de l'universalité de l'Église, il voit mieux l'unité et l'autorité que la diversité et la complexité. Et j'espère qu'il comprend combien, dans l'Église aujourd'hui, nous comprenons de mieux en mieux cette diversité dans notre Église. Il était doué d'une énergie indomptable. Au moment où l'Empire romain s'est disloqué, où l'Occident est passé aux barbares, où l'Orient chrétien s'avance vers le schisme, Léon consolide la seule autorité inébranlable dans la dérive de l'Empire. On a dit de lui qu'il était un pape du vieux monde, mais l'ancienne Église n'a pas connu de plus complet ni de plus grand. Léon ferme l'ère patristique des pères de l'Église, mais désormais le pape est dans un sens, et c'est un peu tragique, le roi de Rome. Ça ne sera pas toujours une bonne chose. Je vous lis des extraits de son sermon sur la nativité de notre Seigneur. C'est le sermon 21 dans les Pères latins de Migne, tome 54. Je le lis en français, évidemment. Ce serait bien trop compliqué en latin. Frères bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, notre Sauveur est né aujourd'hui, alors réjouissons-nous. Il n'est pas permis de donner la moindre place à la tristesse là où naît la vie, qui anéantit la crainte de la mort et répand sur nous l'allégresse de l'éternité promise. Or, que personne ne manque de participer à ce bonheur. Le motif de la joie est le même pour tous, notre Seigneur, destructeur du péché et de la mort, n'ayant trouvé nul être humain exempt de faute, est venu lui-même pour la libération de tous. Alors qu'exulte l'homme saint et la femme sainte, parce qu'il touche la récompense. Que se réjouisse le pécheur, parce qu'il est appelé au pardon. Et même que prenne courage le païen, parce qu'il est invité à la vie. Le Fils de Dieu, en effet, au terme de la plénitude des temps qu'il avait fixé dans la profondeur de ses insondables desseins divins, a assumé la nature de l'homme, pour le réconcilier avec son Créateur. Et ainsi, le diable, l'inventeur de la mort, serait-il vaincu par la nature même qui l'avait vaincu? Et cette lutte engagée pour nous se déroula dans une grande et admirable loyauté, car le Dieu Tout-Puissant s'opposa à son très cruel ennemi, non dans l'appareil de sa majesté, mais revêtu de notre seule bassesse, lui présentant la forme et la nature même, qui sont le lot de notre condition mortelle, mais ici exempte de tout péché. Plus loin est dit, ainsi donc le Verbe de Dieu, Dieu lui-même, Fils de Dieu qui était au commencement auprès de Dieu et par qui tout a été fait et rien sans lui. Vous connaissez ça, c'est dans le grand credo. Mais il s'est fait homme, dit Saint Léon, pour libérer l'homme de la mort éternelle. Et sans rien diminuer sa majesté, s'est incliné pour revêtir notre bassesse, au point que, demeurant ce qu'il était et assumant ce qu'il n'était pas, il unit en toute vérité la forme de l'esclave et la forme qu'il égale à son père. Il souda l'une et l'autre, les natures, et l'union fut telle que la glorification de la nature inférieure, la nôtre, ne la fit pas s'évanouir, tandis que l'abaissement de la nature supérieure ne la diminua pas. Il est toujours un homme. Il a une façon admirable de décrire ces choses-là. Il dit à la fin, donc, mes bien chers frères et sœurs, rendons grâce à Dieu le Père, par son Fils en l'Esprit Saint. Ce Dieu qui, à cause de l'immensité de la miséricorde dans laquelle il nous a aimés, a eu pitié de nous et nous a vivifiés avec le Christ et en lui alors que nous étions morts par le péché. Ainsi sommes-nous devenus en lui une nouvelle créature, façonné par lui de nouveau. Déposons donc le vieil homme avec toutes ses actions mauvaises. Nous avons acquis la participation à la naissance du Christ, alors renonçons aux œuvres de la chair. C'est-à-dire les œuvres de la chair, ça veut dire toutes les œuvres égoïstes, bêtes, plates, moches, destructrices, violentes, perverses, où il n'y a pas d'amour. Renonçons aux œuvres de la chair. Reconnais aux chrétiens ta dignité. Tu participes à la nature divine, ne retourne donc pas, par une manière de vivre indigne de ta race, à ton ancienne souillure. Souviens-toi. Souviens-toi de quelle tête et de quel corps tu es le membre. Il fait appel au corps mystique du Christ. Nous sommes membres du corps du Christ. Comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui voulait être le cœur, hein, je serai l'amour. Hein, c'est beau ce qu'elle dit, cet enfant. Rappelle-toi, dit Saint Léon, qu'après avoir été arraché au pouvoir des ténèbres, tu as été transféré dans le royaume de lumière qui est celui de Dieu. Par le sacrement du baptême, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Alors ne mets pas en fuite, par tes actions dépravées, un hôte de cette qualité. Et ne te replace pas sous la domination du diable. Car le prix de ton rachat, c'est le sang du Christ, c'est son âme, c'est son amour. Et celui qui t'a racheté par sa miséricorde te jugera dans sa vérité. Lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen. Que c'est beau ces textes qui datent de 1500 ans et plus. A-t-on idée? Dans l'oraison à la messe aujourd'hui, il est bien dit, Dieu qui ne laisse pas les puissances du mal prévaloir contre ton Église fondée sur le roc inébranlable des apôtres, fais qu'à la prière du pape Saint Léon, elle reste ferme dans la vérité et sous ta garde, sois pour toujours en paix par Jésus-Christ, notre Seigneur.